Et nous reprenons avec dans cette seconde partie avec tout de suite Côme qui va nous parler de ses lectures.
Tout à fait, j'ai bien envie de piquer la place de Mickaël en tant que grand gourou du jeu de rôle et de vous donner donc plein de conseils pour mieux réussir vos parties, gagner plein d'argent et vous faire des amis, enfin en tout cas au moins la première partie. Et il se trouve que bon, moi j'aime beaucoup le jeu d'enquête et il n'y a pas longtemps je voulais préparer un scénario pour des amis qui n'ont jamais joué au jeu de rôle. Et je me suis dit, tiens, mais bon, j'avais jamais vraiment réfléchi à la question, mais est-ce que par hasard, il n'y a pas une méthode, une espèce de recette magique pour ça? Et donc j'ai fait des recherches et tout, puis je suis tombé sur, je sais plus, je crois que c'était peut-être sur rpg.net, sur un mec qui disait, ah, si tu veux faire un scénario d'enquête, tu dois lire absolument deux articles de Justin Alexander, qui sont la règle des trois indices et les scénarios en réseau. Et. Une fois que tu as lu ça, tu pourras faire tes scénarios, ce sera super. Donc, je suis allé lire ces articles et effectivement, ils sont très convaincants. Enfin, moi, je les ai trouvés vraiment très intéressants, plein de bonnes idées. Je vais essayer de vous les résumer, sachant bien sûr que je risque de ne pas faire justice aux articles qui sont en plus très bien écrits avec des illustrations qu'on ne voit pas à la radio. Et donc, je vous conseille de les lire si vous lisez l'anglais, en plus de ma chronique. Alors, je commence par la règle des trois indices.
Allons-y.
La règle des trois indices, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il s'agit d'essayer d'éviter ce que Justin Alexander appelle les bouchons, un scénario d'enquête, c'est-à-dire les indices dont la découverte est essentielle pour que l'intrigue progresse. Il n'y a pas de souci si on loupe un indice qui est juste un bonus ou qui est du fluff, comme on dit, comme disent les gens bien. Mais bon, il faut peut-être éviter que la partie foire complètement parce que les joueurs sont pas assez intelligents pour trouver un indice, parce qu'ils ont foiré un jet, ou parce qu'on avait mal branlé notre scénario. Donc pour ça, la règle des trois indices est très simple. Elle dit tout simplement, pour chaque conclusion qui doit être atteinte par les PJ, enfin par les joueurs, il faut impérativement inclure au moins trois indices. Pourquoi ? Parce que les joueurs vont probablement manquer le premier indice, ils vont ignorer le deuxième et peut-être mal interpréter le troisième, donc il faut mettre toutes les chances de notre côté.
D'accord, donc au lieu de mettre un cadavre, on en met trois.
Alors,
c'est un plus gros tas, ils ne peuvent pas le louper.
Exactement. Non, il faut essayer de varier le type d'indice, mais par exemple, j'ai pas d'exemple en tête, mais disons que si le truc à trouver, c'est le tueur est un loup-garou, tu vas pouvoir mettre comme indice, par exemple, un indice qui est les meurtres ont toujours lieu lors de pleine lune.
Ouais.
Le deuxième, ça va être, je sais pas, les cadavres sont retrouvés avec des traces de griffes et de morsures.
Et il y a des poils sur le tapis.
Et voilà.
Et c'est
par
pas ça du chat.
Et exactement. S'ils trouvent plus d'un indice, si les joueurs trouvent plus d'un indice, bah tant mieux, ça confirmera et ça pourra même renforcer le raisonnement qu'ils avaient peut-être commencé à avoir. Et puis sinon, tant pis, au moins ils en trouveront un parmi les trois et ça les poussera dans le bon sens. Justin Alexander insiste, il dit pas d'exception, hein, si en tant que MJ on pense souvent mais c'est évident que le tueur est un loup-garou, ils le trouveront tout de suite, bah c'est vrai que, et moi je l'ai vécu hein, en partie, parfois tu te dis mais pourquoi ils trouvent pas cet indice évident, pourquoi ils font pas ce raisonnement, bah donc là ça évite un peu ce problème là.
C'est pas seulement parce qu'ils sont cons, c'est parce que nous on connaît tout et que
voilà.
Voilà, on se dit mais vraiment, mais c'est pas possible.
Bah c'est ça.
Ou parce qu'ils vont partir dans différentes directions, sinon absolument, on n'avait absolument pas prévu.
Et justement, un premier corollaire de cette règle, c'est que la liste qu'on prévoit d'indices, c'est un filet de sécurité, c'est pas une camisole de force. Donc si les joueurs ont des réactions imprévues qui les mènent à la bonne destination ou à la bonne conclusion, et bah très bien, hein, on balance notre liste d'indices qu'on avait préparé. Si par exemple ils se rendent compte que le tueur est un loup-garou parce qu'ils se disent tiens, bah on va installer une webcam, comme ça on pourra capter le prochain meurtre en direct. Et ben pourquoi pas, tant que ça leur permet de découvrir que le tueur est un loup-garou, c'est bon.
Ouais, mais là tu leur poses le problème un peu éthique. Donc vous allez regarder juste pour être sûr, et vous allez laisser un innocent.
Ouais. Ouais, et éventuellement envoyer un drone.
C'est trop facile ça de tuer le loup-garou avec des drones.
Le deuxième corollaire, c'est bien sûr que si les joueurs sont vraiment bloqués, vraiment ils n'arrivent pas à trouver votre indice, votre conclusion, il faut pas hésiter à inclure des indices proactifs du genre. Le méchant envoie des hommes de main pour les menacer, le tueur frappe à nouveau, le monstre s'échappe, etc. Dans le pire des cas, il vaut mieux apporter une fin satisfaisante au scénario, même si c'est pas la meilleure voulue, et que les joueurs ont un peu l'impression qu'on leur mâche le travail, que de laisser le scénario dans une impasse. La troisième corollaire, c'est que les fausses pistes, c'est surfait. C'est-à-dire qu'en général, les joueurs en créent tout seuls.
Ouais, il n'y a pas besoin, en fait.
Donc, c'est pas la peine d'en créer. Et bien sûr, le dernier corollaire, c'est que malgré tous ces indices, bah, ça peut quand même foirer. Et donc, il faut pas hésiter en fait à écrire une liste de révélations qui sont nécessaires au bon déroulement du scénario pour être certain que les joueurs les trouvent où ils sont confrontés comme prévu. Parce que dans le feu de l'action, on peut donner aux joueurs 36 indices qui donnent l'identité du grand méchant. Si on oublie de donner l'indice qui dit où se trouve son QG. Et qu'on le remarque pas, bah on va se dire mais pourquoi ils vont pas au QG là, je comprends pas, ils ont tous les indices en main. Bah, il vaut mieux être sûr de bien inscrire en gros, hein, les joueurs trouvent l'indice qui mène au QG et de le cocher au bon moment, quoi.
Regarde, c'est là-bas derrière les néons roses fluo qui clignotent.
Voilà, c'est ça. Alors un petit addendum, c'est que Alexander n'aime pas Gumshoe, parce que pour lui Gumshoe en fait supprime le problème du
tout à fait
de l'indice, en disant bah pourquoi, puisque trouver des indices peut faire foirer le scénario, on n'a qu'à dire que les joueurs trouvent automatiquement les indices. Mais pour lui ça enlève un petit peu le sel du scénario d'enquête. Alors je suis à moitié d'accord, parce que je trouve que le système Gumshoe quand même peut marcher, mais j'y reviendrai peut-être dans une autre émission, parce que c'est un débat peut-être un peu trop long pour ce soir. Donc voilà, cette règle-là, je trouve, marche plutôt bien. Enfin, moi, je l'ai testé avec succès. Alors, c'est vrai qu'on écrit son scénario, parfois, on se dit, mais enfin là, je me prends la tête à mettre trois indices alors que c'est super simple. Mais bon, mieux vaut prévenir que guérir, et c'est une règle toute bête qui marche
bien. Non, bah, ça permet d'assurer, effectivement, de conforter les joueurs dans une direction, et je pense, bah, c'est du Gumshoe, mais c'est pas la partie système, mais je crois que c'est dans Night Black Agent, j'ai lu ça, où il disait, quand vos joueurs commencent à tergiverser trop et à partir trop dans les théories, ah mais alors on a ça et on a ça et on a ça, couper un peu l'herbe sous le pied des joueurs, les laisser pas trop passer deux heures, ouais. Exactement comme le fameux coup du allez on va faire un plan, non arrêtez, faites pas de plan, on passe à l'action, et le propos était de dire si les joueurs en sont à ce moment là, vous les coupez un peu dans leur réflexion, et pour trancher, le truc c'est de dire trouver d'autres indices, quoi. Pour être sûr que d'aller dans la bonne direction, au lieu de réfléchir et d'inventer n'importe quoi, chercher d'autres indices, c'est que vous avez, si vous n'êtes pas sûr, c'est que vous n'avez pas tout trouvé.
Moi je pensais pas à ça avant, mais c'est vrai que ça m'est souvent arrivé dans les scénarios d'enquête de laisser les joueurs en fait essayer de réfléchir, etc. Et que ça prenne deux heures et qu'ils disent bon, alors on va peut-être retourner là parce qu'on a loupé un truc et tout. Et c'est vrai que ça peut éviter pas mal de temps mort. Alors la deuxième série de, en fait, je dis des articles, mais c'est de blog, hein, mais la deuxième série d'articles, on va dire, c'est des conseils pour écrire un scénario, alors en français ça leur fait moins, des scénarios en réseau de nœuds. Voilà, donc on sera gentil d'éviter les jeux de mots.
Tu veux quel jeu de mots en tête?
Je sais pas. Tête de nœud, par exemple. Pour écrire un scénario donc, qui s'éloigne des intrigues qui sont trop linéaires, essayer de faire des trucs un peu plus organiques. Et pour ça, en fait, Justin Alexander propose la règle des trois indices inversés. C'est-à-dire, si les joueurs ont accès à trois indices, quels qu'ils soient, ils atteindront au moins une conclusion. Donc là, il va falloir essayer d'imaginer l'image que je peux montrer éventuellement à la webcam, qui est celle-ci, et les pages suivantes. Imaginons qu'on a une situation de départ, on va dire la situation X. Et on veut ensuite que les joueurs se rendent à trois endroits, A, B et C, pour que le scénario soit résolu. Et ben, on va mettre un indice pour chaque lieu dans la situation de départ. C'est-à-dire qu'au départ, on va leur dire, vous avez un indice qui vous mène vers A, un indice qui vous mène vers B, un indice qui vous mène vers C. Les joueurs vont trouver au moins un des trois, selon la règle des trois indices. Donc ils vont aller à une des trois destinations, peu importe laquelle. Et ensuite, quand ils arrivent à l'endroit A, ils vont trouver des indices qui vont les mener vers les deux autres lieux qui ne sont pas encore explorés.
Vers B et C, et vers D ou pas ?
Alors, je vais y venir, effectivement. Si on, alors, ça, c'est le truc de base pour écrire un scénar qui peut se passer dans n'importe quel ordre. En gros, l'argument de Justin Alexander, c'est que dans une enquête, ça ne marche pas à tous les coups, mais il peut y avoir des scénarios. Il prend l'exemple notamment, enfin, il donne en fait un exemple de scénario qu'on peut d'ailleurs jouer, je pense. C'est une enquête autour d'une attaque terroriste sur Las Vegas, et en gros il dit il y a trois endroits, il y a la chambre d'hôtel où se planquent les méchants, il y a là où habite le flic corrompu que le méchant a mis dans sa poche, et puis là où est cachée la bombe, en gros. Et il dit bah c'est vrai que bon, il y a peut-être un ordre plus logique à ces trois lieux-là, mais on peut sans doute les visiter dans n'importe quel ordre et quand même faire un scénario satisfaisant si on a besoin d'un grand final, enfin d'une conclusion précise, voilà, le combat final contre le grand méchant, c'est le truc classique, bah, pas de problème, on rajoute une destination D, Et effectivement, comme tu disais, dans chaque nœud, il va y avoir un indice qui mène à D. Alors, ils passeront du coup peut-être pas par tous les nœuds, mais ceux-là peuvent quand même servir. Par exemple, imaginons que le nœud C, c'est la planque des gros bras, et les PJ n'y vont pas parce qu'ils trouvent directement l'indice qui mène au combat final. Et bah très bien, on ramène les gros bras en renfort lors du combat final. Comme ça, s'ils trouvent la planque des gros bras un peu avant, bah ils seront contents parce qu'ils ont « Ah cool, on a pu éviter de se prendre tous les gros bras sur la gueule. » quoi. Alors ça, c'est le schéma de la pyramide, hein, c'est-à-dire on part d'une situation initiale, après on arrive à plus de nœuds, et puis au bout d'un moment, on arrive à une conclusion finale. Il y a plein d'autres schémas hein, qui détaillent dans son article. On peut créer des impasses volontaires, qui sont pas exactement des fausses pistes, mais plus des espèces de bonus que les joueurs peuvent visiter s'ils le veulent, mais qui sont pas nécessaires à l'intrigue. Du coup, il faut pas les inclure dans la règle des trois indices, puisque c'est des impasses. On peut aussi redistribuer les indices, c'est-à-dire dire tous les indices qui sont au nœud C vont mener à A, alors que tous les indices du nœud A vont mener à B. On n'est pas obligé de distribuer de manière équitable. Voilà. Alors qu'est-ce qu'un nœud d'ailleurs? Depuis tout à l'heure, je dis que c'est des lieux, mais pas forcément. Donc ça peut être là où les joueurs doivent aller, les PJ doivent aller ensuite. Ça peut être une personne. La personne à laquelle les PJ doivent s'intéresser ensuite, dans le cas du flic corrompu par exemple, c'est plus intelligent de dire que le nœud en question c'est plus le flic, sans mauvais jeu de mots encore une fois. Comme ça, on n'est pas obligé de dire il est à son appartement en train d'attendre que les joueurs arrivent. Il peut,
oui, parce que l'élément clé c'est pas son appartement, c'est pas là qu'il indique, voilà. C'est sur sa tenue ou dans la poche de son appareil.
Ou les informations qu'il va pouvoir leur donner, etc. Donc lui il fait sa petite affaire pendant ce temps-là et à un moment les joueurs vont devoir aller le trouver. Ça peut être un événement auquel les PJ doivent assister, une soirée de gala, un rituel satanique, etc. Et ça peut d'ailleurs aussi une action. Par exemple, si les joueurs doivent accomplir un rituel pour empêcher l'arrivée de Cthulhu, du coup, les indices, ça va être peut-être premier indice où doit avoir lieu le rituel, deuxième indice de quels ingrédients ils ont besoin, et troisième indice, il faut dire que Clatoon Veratan et Cthulhu, sinon ça foire. Il peut aussi y avoir des nœuds à l'intérieur d'autres nœuds. Par exemple, si je prends le temple du mal élémentaire, le temple du mal élémentaire, c'est un gros nœud, si j'ose dire, auquel les PJ sont dirigés par des indices qui sont situés, par exemple, dans le village d'Omelette ou dans la campagne environnante. Et une fois qu'ils arrivent à l'intérieur du temple, bah, finalement, chaque salle du donjon va être un nœud en soi à explorer. Et ensuite, on a la version avancée de tout ce que je viens de dire, que je résume hein, vraiment rapidement. On peut, par exemple, s'interroger sur qu'est-ce qui va être la navigation entre deux nœuds. C'est-à-dire, est-ce que ça va être déjà forcément un indice? Est-ce que les PJ vont être incités à aller du lieu A au lieu B? Regarde ce bel indice tout brillant qui te donne envie d'aller voir ce qui se passe, mais ils peuvent aussi y être forcés. Tu vas aller au nœud B, sinon je bute ta sœur, par exemple. Donc voilà, on peut jouer sur ces deux tableaux-là. Et puis, outre la découverte d'indices, on peut aussi envisager un déplacement géographique. Ça peut être typiquement trouver une porte secrète dans un donjon. On peut envisager un mouvement temporel, un coup de fil à 14h, une attaque de gobelins la nuit tombée, c'est-à-dire souvent des nœuds proactifs, des choses qui vont tomber sur la tronche. Qui vont tomber sur la tronche des joueurs qui s'y attendent pas, mais ça peut ne pas être le cas. Par exemple, une éclipse de lune le 14 mars, là c'est temporel, mais c'est pas forcément proactif, c'est indépendant plutôt de ce que vont faire les joueurs. Ça peut être une irruption aléatoire. Donc le coup du monstre errant, mais qui va être quand même préécrit pour qu'il puisse faire avancer l'intrigue avec les informations qu'il aura sur lui. Quoi. Oui, et bien sûr, ça va être aussi souvent, je pense d'ailleurs dans la plupart des cas, des méthodes que les joueurs créent sans que vous l'ayez prévu. Quoi. Ils vont au lieu B tout seuls comme des grands, tu dis bon bah très bien, ils ont trouvé tout seuls. Je balance tout mon travail préparatoire, mais tant mieux puisque l'intrigue... L'intrigue avance.
Dans le sens que tu avais prévu.
C'est ça. Alors, ce que j'ai pas mentionné, c'est que Justin Alexander dit que tout ça est fortement inspiré de la liste qui est présente dans les masses de Nyarlathotep. Je ne sais pas si vous l'avez lu, cette campagne, qui est pour le coup vraiment une campagne en réseau de nœuds. Hein. Vous avez des lieux différents que les joueurs peuvent visiter dans un sens...
Plus ou moins
déterminé, mais à part je crois qu'à part le départ qui est à New York et la fin qui est vers au Japon, je crois, et même la fin, dans mon souvenir, tu t'es pas obligé d'y arriver à la fin, justement. Et en fait, il y a des listes qui disent à New York, il y a telle personne qui a tels indices qui amènent vers tels endroits, etc. Et c'est exactement ça, en fait, que Justin Alexander un site à faire. D'ailleurs, il dit aussi qu'il peut être amusant de prévoir des réseaux de nœuds en parallèle. Par exemple, il y a deux méchants dans le scénario. Du point de vue du MJ, c'est pas très difficile à gérer. On va mettre genre 5 nœuds par méchant, donc t'as deux listes sur ta feuille, bon, c'est pas trop compliqué. Mais du point de vue des joueurs, ça donne un espèce de truc complexe. Ils comprennent pas trop qu'est-ce qui est relié à quoi, et ça les épate beaucoup plus. Ils ont l'impression que t'as fait un boulot de MJ de ouf. Donc voilà, pour résumer, il s'agit de réfléchir à une intrigue, d'écrire les révélations qui sont nécessaires à cette intrigue. Donc par exemple, voilà, moi j'ai fait un scénario tout con avec une histoire de dieu du sommeil qui veut emmener tout le monde dans son royaume, etc. Donc j'avais mis, bon bah d'abord il faut c'est à recommencer avec le suicide d'un des types qui était le gardien du dieu. Donc je disais, bon bah d'abord il trouve le corps, ça c'est la situation de départ. Ensuite il faut qu'il comprenne que le type en question est un gardien du dieu. Il faut qu'il comprenne qu'est-ce que le dieu, qu'est-ce que ce dieu, qu'est-ce qu'il veut faire, et il faut qu'il se rende au lieu final, là où il doit faire le rituel. Et à partir de là où tu as ces quatre révélations, bah, tu vas dire, ok, ça c'est les quatre trucs qu'il faut. Maintenant, je vais commencer à, pour chaque révélation, à réfléchir à des indices.
Trois indices qui mènent chacun à
et ce qui est, ce qui est assez épatant, c'est qu'en plus, quand tu réfléchis comme ça à trois indices, bah, ça te pousse à développer des trucs, ou en tout cas à mettre un petit peu de chair sur un squelette. Tu te dis, bon, bah, machin, à la base, c'était juste un homme de main tout con. Et en fait, une fois que tu vas réfléchir à trois indices, tu vas dire, ok, alors peut-être qu'il est marié et que son mariage se passe pas bien, donc que sa femme peut balancer des infos sur lui. Peut-être que tous les samedis soirs, il va à tel bar boire un coup, et qu'une fois qu'il a trop bu, il peut lâcher des infos. Et au final, ça rend le truc beaucoup plus vivant, en fait. Et ça l'emmène dans des directions que tu n'avais pas forcément prévues, mais qui sont en général assez agréables. Voilà, en gros, tout ce que j'avais à dire. Donc, c'est pas des conseils qui sont super complexes, ni qui sont, enfin, je veux dire, c'est des trucs auxquels on a tous un petit peu pensé, hein, quand on a écrit nos scénarios. Mais je trouve que les formaliser comme ça, notamment cette fameuse règle des trois indices et son inversion, est vraiment bien pensée. Et une fois que tu as lu ça, tu dis, bah ouais, ça, pourquoi j'ai jamais fait ça avant.
Ce que j'aime bien, c'est que c'est des règles simples, dans le sens où on peut vraiment s'en souvenir.
Ouais. Bah ouais, tout à fait. Et puis, comme je disais, hein, sur son site, il donne plein d'exemples. Il y a des jolis schémas pour ceux qui ont une mémoire plutôt visuelle. Il donne des exemples de parties à lui où ça s'est bien passé ou mal passé, des conseils, etc. Voilà, c'est fini.
Eh bien, nous allons enchaîner tout de suite avec Michael et Inspectors.
Alors, oui, parce que justement, ça fait un petit peu le parallèle avec cette fameuse théorie de John Alexander. Comment il s'appelle ?
Justin Alexander.
Justin Alexander, excuse-moi. Je vais vous parler de Inspectors. Inspectors, c'est un jeu de Jaren Sorensen qui a plus de 10 ans, je crois qu'il doit dater de 2001 ou 2002, ça commence à dater. C'est un jeu d'enquête narrativiste, on va dire, qui mélange TV réalité et Ghostbusters, donc horreur et comédie comme il se doit. Donc c'est un peu, voilà, Ghostbusters meets Cops, vous voyez, mais aussi tous les trucs genre Loft et compagnie. Il n'y a pas de cadre de jeu à strictement parler qui est décrit dans le livre de base, et les joueurs, en fait, dans le jeu incarnent soit les patrons soit les employés d'une franchise Inspectors qui vont créer toute pièce. Donc une franchise Inspectors, ils n'ont pas la licence Ghostbusters, donc ils vont pas dire que c'est une... Mais grosso modo, Inspectors, c'est un réseau de franchises dans tous les États-Unis qui, de nos jours, s'occupe de régler les menus problèmes que vous avez de gremlins, de fantômes, de vampires, de loups-garous, bref, voilà.
C'est Who You Gonna Call, Inspectors.
Voilà, c'est exactement ça.
C'est un registre plus étendu que le fantôme, en fait.
Oui, carrément. Je te dis, loups-garous, vampires, fantômes, spectres, blobs, quoi, ce que tu veux, en fait. Gremlins, c'est vraiment un petit peu ce que tu veux de ce côté-là.
D'accord, très bien.
Donc voilà. En fait, donc, le jeu est une réponse de Jaren Sorensen au problème qu'il voyait dans les jeux d'enquête qui, pour lui, ne fonctionnaient pas. Donc sa solution, la solution qu'il propose en Inspector, c'est de mettre en place une sorte d'interaction, que l'histoire se fasse, l'enquête se fasse par le biais d'une interaction entre les joueurs et le MJ, donc une sorte de ping-pong incessant entre les deux, sachant que le MJ, en fait, crée des événements ou une situation de départ, Et en fonction de ce que vont faire les joueurs, il rebondit sans cesse. Donc c'est un jeu qui se veut low prep, peu de préparation, parce que le but du jeu, c'est vous créez une situation de départ et vous allez voir un peu ce qui se passe. Donc avant de rentrer dans la structure de la partie, je vais vous parler un peu de la création de personnages, parce qu'il y a des petits trucs sympas. Donc la création de personnages consiste à choisir un nom, à déterminer ce que le personnage faisait avant de rejoindre Inspectors, donc son petit background. Et après, on répartit 9 dés, ce sont des dés à 6 faces, entre 4 compétences. Donc académique, c'est-à-dire grosso modo les connaissances, l'éducation, athlétique qui est donc l'athlétisme, la technologie et les contacts. Donc les connaissances et tout ce qui est matière grise, vous voulez savoir quelque chose, vous allez rechercher quelque chose dans une bibliothèque, ça regroupe un peu tout ça. Athlétisme, c'est tout ce qui est physique, y compris le combat. Technologie, c'est tout ce qui est utilisation de matériel divers et variés, technologiques, informatiques, pour faire un peu tout ce qu'on veut. Et contact, c'est tout ce qui est social. La parlotte, le bluff, comment vous gérez l'humain, en fait, le social. Et vous commencez, donc vous répartissez 9 dés dans ces 4 compétences et vous avez 0 dés de cool. On reparlera des dés de cool un petit peu plus tard. Vous choisissez aussi un talent. Alors un talent, c'est un petit peu comme, par exemple, dans Over the Edge, ça va définir qui vous êtes. Vous êtes un ancien agent secret, un militaire à la retraite, un prof de fac, je ne sais. Ça va être quelque chose qui va intervenir. Vous allez négocier avec le MJ pour dire « Ouais, dans mon jet de compétences, mon talent, il pourrait entrer en jeu. » Et voilà, vous avez fini votre création de personnage, sachant qu'il n'y a aucune évolution possible dans le jeu. Il n'y a pas d'XP. Donc votre personnage, il est fait une fois pour toutes. Et il va évoluer dans l'histoire, dans sa psychologie, dans tout ça. Sachant que du coup, comme vous n'allez pas vous attacher à faire évoluer votre personnage mécaniquement, le but, vu que c'est un jeu aussi un peu d'horreur, il ne faut pas hésiter non plus à faire mourir vos personnages. Sinon, ça ne serait pas drôle. Voilà. Et d'ailleurs, on reparlera justement
de
la mort du personnage.
C'est une version tragique de Ghostbusters.
Voilà. On reparlera du cas de quand vous mourrez, qu'est-ce qui peut se passer. Après avoir créé votre personnage, parce qu'il y a d'autres types de personnages qu'on peut créer, on va faire la création de la franchise, donc de la société. Donc vous décrivez la franchise en une seule phrase, et ensuite vous déterminez le nombre de dés de franchise à répartir. En fait, selon la taille, si c'est une petite start-up du fin fond du Kansas, ou si c'est le siège social d'Inspectors, vous allez répartir entre 5 et 10 dés. Donc en fait, la franchise a aussi des caractères, c'est une sorte de feuille de perso. Et vous distribuez ces dés entre 3 types de cartes. La carte de bibliothèque, la carte de la salle de gym et la carte de crédit. Oui. Parce qu'en fait, ça va avoir des bonus sur certaines compétences. Vous vous doutez bien. Et le reste des dés, vous les mettez à la banque. Donc voilà, c'est assez... Ensuite, la mécanique. Maintenant, parlons de la mécanique. Donc quand un personnage veut faire quelque chose, il doit lancer un nombre de dés égal à la compétence qui est concernée. Donc si vous voulez faire du combat, vous allez lancer le nombre de dés que vous avez en athlétisme. Et vous conservez le meilleur résultat. Et ensuite, une fois que vous avez conservé ce meilleur résultat, vous regardez une table qui va vous raconter ce qui s'est passé. Plus exactement, elle va dire qui va raconter ce qui s'est passé. Si vous faites, donc vous avez lancé, je ne sais pas, 3D6 et vous avez fait 6, eh bien de 4 à 6, ce sont les joueurs. C'est le joueur qui joue qui détermine ce qui s'est passé. Si vous faites de 1 à 3, c'est le MJ qui détermine ce qui s'est passé. Donc évidemment, quand c'est l'MJ qui raconte, vous êtes chez dessus, hein, ça merde est grave. Et quand ça c'est plutôt positif, c'est le joueur qui détermine ce qui se passe. Donc c'est le pouvoir de narration, il intervient directement là-dedans.
Il y a des degrés de narration.
Oui, par exemple, alors c'est comme qu'à la table. Quand on a fait 6, je crois, donc on raconte tout, il se passe des trucs super bien. Et en plus, vous gagnez des dés de franchise. Je pense qu'il y a un ou deux dés de franchise qu'on gagne. À 5, tu gagnes un dé de franchise et il t'arrive un truc cool. À 4, c'est une réussite juste. Et à l'inverse, voilà.
Oui, après, d'accord.
Donc, ça met les choses en place. Ensuite, il faut savoir qu'évidemment, avant de faire ton jet de dés de compétences, tu as des moyens d'augmenter le nombre de dés que tu vas lancer. Ouais. Donc, le premier, vous utilisez les cartes de la franchise. Si tu fais une action de bibliothèque, si tu fais une action de connaissance, tu vas utiliser ta carte de bibliothèque. Si votre franchise, elle a 3 en bibliothèque, vous allez lancer 3 dés plus. Si c'est l'athlétisme, vous utilisez ce que vous avez en valeur de salle de gym, de carte de salle de gym. Si c'est en technologie, vous utilisez votre carte de crédit. La carte de crédit de la franchise.
C'est une réserve qui s'use.
Une réserve qui s'use, oui, bien sûr. Voilà pour ce qui est... On peut aussi utiliser la banque. La banque, vous prenez des dés de la banque et en fait, vous pouvez le mettre à n'importe quelle compétence. ou vous pouvez utiliser votre talent. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je fais un jet d'athlétisme, je suis un ancien militaire à la retraite, bah, je vais peut-être dire, ouais, mais attends, je suis en militaire à la retraite, quoi. Je veux dire, je sais me battre, quoi. Ok, d'accord. Bah, va rajouter ton dé de talent parce que t'as ton talent. Et sinon, t'as aussi les dés de cool. Alors, un personnage à la création n'a pas de dés de cool, mais il peut en gagner pendant le jeu.
Mais la banque, c'est la grosse arnaque, hein, cela dit.
Voilà, justement, la banque. Quand on recourt à la banque, on symbolise le dé avec une couleur différente. Et en fonction du résultat qu'il a, on consulte une table qui va nous dire si...
Je te vois sourire malicieusement.
Qui va dire grosso modo si le dé, tu l'utilises et en plus tu le conserves. Si tu l'utilises, il ne se passe rien. Si tu l'utilises et tu le perds. Voire t'en perds plusieurs. Donc grosso modo, en faisant ça, tu vas peut-être pouvoir ruiner ta franchise quelque part.
Bah, je peux lire rapidement la table parce que moi c'est un des trucs qui m'avait dérangé en fait quand j'y ai joué. En gros, si tu fais 1, tu ignores tous les résultats, tu perds tous tes dés dans ta banque. Si tu fais 2, tu ne perds que le dé que tu viens de lancer plus un dé de banque en plus si possible. 3 et 4, il se passe rien. 5, le dé que tu viens de lancer, tu le remets dans la banque.
Tu le dépenses pas en fait.
Donc en gros, tu le perds pas.
Et 6, tu en gagnes en plus.
Et 6, tu en gagnes en plus. Donc en gros, ça veut dire que grosso modo, il y a 2 résultats positifs, il se passe rien.
Ou alors tu
rajoutes un dé. Et ça, c'est 5 et 6. Tous les autres trucs, tu perds un dé. Voire tous. Donc c'est quand même vachement
bah, c'est à double tranchant, c'est pour ça là, faut
si t'as
voir...
pas de moule au dé,
c'est plus que double tranchant.
Non, mais c'est
quadruple tranchant.
Mais il faut voir aussi une chose, la banque tu peux l'utiliser dans n'importe quelle compétence, alors que les autres cartes, elles sont spécifiques à une compétence, donc c'est quand même un gros avantage aussi de l'utiliser. Rien ne t'oblige de le faire d'ailleurs. Donc bref, après il y a l'autre possibilité qui est, histoire d'emprunter un petit peu à Donjons & Dragons, si vous avez 4 dans une compétence et que votre compétence est vraiment à plus de 1, parce qu'on peut perdre des points de compétence avec le stress. Bref, il faut que vous ayez plus que 0. Et si vous avez une compétence à 4 à l'origine, à la création, et ben vous pouvez prendre 4. C'est-à-dire vous faites une réussite normale, gratuite. Tu lances pas les dés, tu dis non, moi je prends 4. Voilà. Donc ça, c'est une autre possibilité. Et ensuite, évidemment, vos camarades peuvent vous aider. Alors si vous aidez vos camarades, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un jet de compétences, et qui n'est pas forcément de la même compétence que le joueur. Donc grosso quoi, si le personnage de Com doit se battre, et lui normalement il fera un jet d'athlétisme. Mais si moi par exemple j'utilise, je sais pas, technologie, parce que je vais utiliser un projecteur qui va essayer d'éblouir le loup-garou contre lequel il se bat, je vais faire un jet donc de technologie, et que je réussisse ou pas. Mon jet de compétences, je vais lui donner un de mes dés. Donc si j'ai réussi le jet comme mon jet de compétences, je garde toujours le meilleur résultat pour déterminer si j'ai réussi ou pas. Donc je vais filer forcément un des autres dés. Et les autres camarades peuvent faire pareil. Donc c'est pas forcément très pratique, mais bon, voilà, c'est comme ça que ça marche. Et ensuite, qu'est-ce qu'on rajoute à ça dans le système? On rajoute le stress. Parce que évidemment, quand un personnage subit du stress, et genre quand il croise une horreur innommable, quelque chose comme ça, ou qu'il subit des petits stress au fur et à mesure qui s'accumulent, et bien il fait un jet de stress. Et là, la différence, donc c'est la difficulté du jet de stress, c'est le MJ qui la donne. Hein. Si ça, je sais pas, il voit Nyarlathotep, ça va être un jet à 5D. Et il garde le pire des résultats. Et il consulte une table. Et il lui arrive des galères assez monstrueuses. Donc voilà, donc ça c'est les bonnes petites blagues. Et ensuite il nous reste les dés de cool dont je vous ai parlé. Alors les dés de cool, ils permettent d'une part d'ignorer les pires résultats sur un jet de stress. Si vous avez un dé de cool ou deux dés de cool, si vous avez un dé de cool, vous ignorez normalement pour un jet de stress, vous gardez le pire résultat. Si vous avez un en cool, vous gardez le deuxième pire résultat. Okay. Celui qui est un petit peu mieux. Si vous avez deux en cool, ainsi de suite. Okay. Donc ça permet de... Ça c'est le premier usage du stress. Le deuxième, c'est que ça peut permettre d'utiliser cool. les dés cool. Ça peut permettre d'augmenter le nombre de dés que vous avez lancés pour une compétence ou ignorer un malus que vous avez donné du stress.
D'accord.
Voilà, ça, c'est l'autre possibilité. Malheureusement, on ne peut jamais avoir plus de 3 dés de cool.
Ok, c'est ce que j'allais demander, parce que j'allais dire passer à certains seuils, en fait.
Bah bon, non, ce serait beaucoup trop facile.
Et c'est James Bond, quoi.
Et là, le système, j'ai fini avec le système. Mais j'ai oublié un petit détail important, c'est que dans votre équipe de personnages, vous avez le droit, par équipe, à avoir au maximum un personnage surnaturel. Quel est l'intérêt du personnage surnaturel? Ça peut être un vampire, un loup-garou ou un fantôme. Genre un fantôme d'un PJ qui vient de mourir. Mm-hmm. Il revient, il est fantôme.
Ouais.
La différence pour ce personnage-là, c'est qu'il a 10 dés à répartir dans ses compétences et ses dés de cool, parce qu'il peut avoir des dés de cool à la création.
Dès le démarrage. Ouais.
Dès le démarrage. Par contre, il n'a pas le droit à avoir un talent, et il a le droit à avoir un pouvoir spécial. Genre, je sais pas, vous faites un loup-garou, voilà, il peut se transformer. Mais pour pouvoir activer son pouvoir spécial, il doit dépenser un dé de cool, par utilisation. Mmh. Donc voilà pourquoi on lui donne du dé de cool. Donc, comme je vous l'ai dit, on peut en avoir qu'un seul dans le groupe. Et la particularité des personnages surnaturels, c'est qu'ils ne peuvent jamais gagner aucun dé de franchise. Je vais y venir, à quoi servent les dés de franchise, en faisant des jets de compétences. Voilà.
Parce que les créatures surnaturelles sont très menteuses.
Et parce qu'elles ne gagnent pas d'argent, parce qu'elles dépensent tout à s'acheter du sang pour pouvoir se nourrir, bref.
C'est pas des employés modèles.
Exactement. Donc maintenant, on va parler de la structure de la partie en elle-même. Quand vous commencez une partie d'Inspectors pour la première fois, vous allez faire un entretien d'ouverture. Ça peut être un des trois types d'entretien que vous voulez faire. L'entretien d'embauche pour l'employé, si vous voulez faire incarner ça. Soit le joueur va incarner un investisseur potentiel pour la franchise, donc vous faites l'entretien avec l'investisseur. Soit c'est un journaliste qui vient interviewer Inspectors et donc qui vient interviewer quelqu'un de la franchise.
D'accord.
Donc chaque joueur va en tout cas incarner ça, histoire qu'on puisse mettre un petit... Mais c'est seulement à la création de la franchise qu'on fait ça. Ensuite, en cours de partie, il y a ce qu'on appelle le confessionnal, pour expliquer pourquoi je vous disais qu'il y a de la TV-réalité.
Oui, c'est vrai.
Donc c'est un outil, l'outil du confessionnal, on peut l'utiliser, chaque joueur peut l'utiliser une fois par partie. Mais il peut y avoir qu'un confessionnal par scène. Le confessionnal, qu'est-ce que c'est ? Ouais, vas-y.
Non, rien, maintenant j'ai des images atroces. En fait, je m'imagine, les ch'tis à Ibiza, mais mélangés avec la partie d'inspecteur.
Ça, c'est l'antenne.
J'ai vu des choses surnaturelles, je comprends pas. Bah, déjà, d'habitude, tu comprends pas.
Voilà, exactement. Donc, le confessionnal, il peut servir à faire trois. Donc, vous pouvez le matérialiser par une chaise, tout simplement la table qui est vide. Et quand c'est ce que je recommande, hein, vous le mettez en bout de table, et quand un des joueurs va aller faire le confessionnal, d'abord d'une part, c'est le seul moment où le personnage va pouvoir s'adresser aux joueurs. Les joueurs, à ce moment-là, qui ne sont pas au confessionnal, vont jouer les téléspectateurs de la télé. Donc on va leur parler directement. Donc le personnage va leur parler directement. Et il va pouvoir faire une des trois choses suivantes. Soit il va pouvoir donner un trait positif, négatif ou neutre à un personnage. Genre, il va dire « Ah ouais, mais alors, Joe, il arrête pas de draguer, il a pas arrêté de draguer pendant ce truc-là. » Et là, à partir de là, le joueur en question, qui incarne ce personnage, qui incarne Joe, va avoir le choix de jouer ce trait. Il est pas obligé. S'il le joue à la fin de la partie, il aura un dé de franchise en plus. S'il le joue pas, il l'ignore. Tout point. Ça, c'est la première solution, la première possibilité. La deuxième, c'est rajouter un élément à l'histoire. Du genre... Ouais, si j'avais su qu'il allait nous arriver ça, j'aurais pas dragué machin. Bah, heureusement que les talents d'improvisation du professeur nous ont tiré d'affaire.
Ouais,
donc quelque chose de très vague, mais qui vont du coup avoir des conséquences en jeu, et les joueurs et le MJ vont essayer de broder autour de ça. Mais on dit pas des choses aussi précises. C'est juste un foreshadowing. On dit qu'il s'est passé quelque chose sans vraiment dire ce qui s'est passé. Du coup, on oriente un peu le jeu. Ou ça peut être la troisième solution, quand on rajoute un élément à l'histoire, ça va être du genre « Ah, une chance pour moi que j'avais gardé dans ma poche un sachet de sauce piquante de notre déjeuner. » Et justement, dans la foulée de cette scène, le joueur en question, le personnage en question, va utiliser ce sachet de sauce piquante pour l'envoyer dans les yeux du monstre et qui va se retrouver coincé pendant un round. Bref, voilà. C'est les trois possibilités qu'il y a. Donc, comme je vous l'ai dit, ce qui est important pendant le confessionnal, c'est qu'il faut vraiment que le personnage... Il s'adresse aux joueurs, qui sont donc des spectateurs de la télé. Et ce qui est important aussi à savoir, c'est quand on rajoute des éléments, on rajoute des éléments. On doit ni annuler quelque chose qui s'est passé, ni retirer des éléments en jeu. Donc c'est forcément un rajout. Ça, c'est très important. Donc voilà pour l'autre élément de gameplay, cet élément de gameplay qui était le confessionnal. Et maintenant, venons-en à la structure d'une enquête. Les enquêtes, elles s'orientent toujours, elles s'agrémentent toujours de la même façon. Vous commencez par la rencontre du client. Ça peut être le coup de fil, ça peut être un entretien avec le client. Donc c'est là où le MJ va déterminer en fonction de ce qui se passe le nombre de dés de franchise qu'il va falloir obtenir pour boucler l'affaire. C'est entre 10 et 30. 10, c'est un scénario simple, 20, c'est moyen, 30, c'est vraiment balèze. Et comme si vous avez perdu le fil, ça arrive, quand vous faites des jets de compétences sur la table, si vous faites 6 sur le dé, ben vous allez récupérer 2 dés de franchise. 5, c'est 1, 4, c'est 0, et ainsi de suite. Donc, au fur et à mesure de vos réussites, vous allez obtenir des dés de franchise. Et puis, quand vous arriverez le potentiel total du truc, vous arriverez au bout. Et dans le livret qui fait pas beaucoup de pages, hein, le livre, attends, combien il fait ?
Il fait 80 pages.
80 pages. Ben, vous avez une table qui vous permet de créer aléatoirement la situation de départ, le problème du client, pourquoi le client vous appelle. Ensuite, deuxième étape, on enquête. Évidemment, c'est pendant toute cette étape qu'on avance. Alors, le MJ, il n'est pas là pour fournir des indices, qui rejoint la théorie de John Steen Alexander. Lui, il va plutôt s'occuper de créer des interactions. Il va créer des situations et c'est les joueurs qui vont un petit peu nourrir. Il va y avoir ce ping-pong qui va faire que les indices vont évoluer au fur et à mesure.
L'échange avec les PNJ qui vont leur faire croire des choses.
PNJ et PJ. Est-ce qu'il y a un extincteur là ? Dis-moi, il y a un extincteur là ? Et puis, bref, on essaye un petit peu.
C'est du Apocalypse World à fond, quoi.
Voilà, sauf que c'est 10 ans avant. Oui. Un peu plus. C'est comme ça qu'on fonctionne sur. Le MJ fournit, on va dire, une idée de départ, mais après, on interagit les uns avec les autres.
Ouais.
Étape suivante. Comme dans tout bon épisode de l'agence Tourisque, on s'équipe. Donc c'est là où on va acheter du matos, ou qu'on va essayer d'utiliser le matos qu'on a, qui va pas forcément marcher à tous les coups. Et on va s'équiper, on va fignoler, on va improviser, bref. Quatrième étape, on passe à l'action. Donc on résout notre truc qu'on avait prévu et on y va. Et après, la cinquième étape, c'est on remballe. Donc c'est là où on a accompli, on a obtenu tous les dés de franchise qu'il fallait, donc... C'est là où on va, les dés de franchise qu'on a obtenus, si on a accompli la mission correctement, on va pouvoir les répartir entre les différentes cartes de franchise, la banque, les dés de cool du personnage surnaturel ou les vacances. Je vais vous expliquer juste après ce que c'est. Ou si vous n'avez pas réussi la mission, vous regardez combien vous avez de dés de franchise à la fin de la mission, vous divisez par deux, c'est ce qui vous reste.
D'accord.
Ok.
Et après, il y a l'étape des vacances. Ouais, parce que vous allez dépenser des points pour essayer d'éliminer le stress, tout ça, mais il va falloir prendre des vacances. Donc vous avez mis un potentiel dans les vacances, vous pouvez éliminer le stress donc, en utilisant des dés de franchise mis en vacances, en utilisant les dés de la banque, en utilisant les dés de cool, et voilà, ça vous permet d'avancer. Donc voilà comment le jeu, présenté rapidement, je crois, j'ai pas regardé combien de temps j'ai mis, se présente.
1h22.
C'est un jeu qui est très fun. Je trouve qu'il y a des mécaniques de gameplay qui fonctionnent vraiment très bien. Après, j'ai pas maîtrisé, donc c'est pour ça que là, c'est là où j'appelle j'utilise ma carte de salle de gym et que je demande à Com d'intervenir.
Alors, je l'ai pas maîtrisé non plus, mais j'y ai joué. Et j'y ai même joué dans des conditions particulières, puisque c'est Steve qui intervenait la semaine dernière, qui nous y avait fait jouer. Dans un parc, et comme Steve est quelqu'un d'ambitieux, il nous avait dit, mais moi j'ai lu Inspectors et je pense que ça se prête bien à la narration partagée, qui est un peu... la narration partagée, c'est un peu à Steve ce qu'était à une époque Smallville pour moi, c'est-à-dire qu'il le recase dès qu'il peut. Et donc on a testé et ça marche plutôt bien en narration partagée. Alors bien sûr il faut une situation de départ de base, mais après de toute façon ça comme tu le disais toi-même, il y a tellement peu de préparation même quand t'es MJ que du coup t'as pas besoin de faire grand chose de plus. Donc là on a créé une franchise d'Inspectors en Bretagne qui se battait donc contre les Corrigans et autres choses surnaturelles. Alors je me souviens plus du tout du scénario, à part que ça se finissait autour d'un rituel avec un menhir qu'on devait recouvrir de les ribots, enfin bon bref voilà. Mais ça marche plutôt bien et la gestion des ressources est bien foutue. Enfin, le système marche très bien, c'est-à-dire que effectivement à chaque fois tu dis bon mais alors là est-ce que je vais utiliser la banque ou pas parce qu'il y a quand même un risque. Bon là on va essayer de blinder un petit peu notre salle d'athlétisme, voilà des choses comme ça. Et puis nous on l'avait joué délibérément en côté Ghostbusters fauché, quoi, c'est-à-dire qu'on avait une caméra pour toute l'équipe, si on voulait faire des trucs un petit peu alambiqués, fallait aller demander l'autorisation au maire du village, etc. Mais ça marchait assez bien. Et le système du confessionnal est vraiment très marrant. C'est-à-dire que le côté, notamment, comme tu disais, de rajouter des choses du genre et alors qu'on fonçait sur le monstre, j'imaginais vraiment pas que Roger allait se prendre les pieds dans ses chaussures et empaler Eric par accident, quoi. Et là, t'es obligé de l'inclure dans l'intrigue et ça rajoute du sel. Donc ça marche très très bien. Enfin, moi j'étais assez convaincu. Après, clairement,
c'est un certain type de jeu d'enquête.
Ce qui est important à savoir, c'est qu'Inspector, ça c'est le jeu de base, mais il y a plein de suppléments qui existent sur le net. J'en ai pris quelques-uns au hasard pour voir. Il y en a un qui s'appelle Inspeckers, qui est une ambiance au croisement de des Goonies et de Monster Squad. Il y a Night Watch, qui est plutôt ambiance reporter. Il y a Legend of Super Science, qui est ambiance la série Venture Brothers. Il y a Unspeakable, qui est ambiance Cthulhu, évidemment. Wart 13, qui est ambiance urgence en mode hôpital hanté. Il y a plein de possibilités. Moi, ce que j'aime bien dans ce jeu-là, c'est que, d'une part, les personnages n'ont pas grande importance. En fait, c'est vraiment l'histoire qui prime. Il y a de la narration partagée. Mais le but du jeu, c'est de faire évoluer vos personnages psychologiquement parlant. C'est bien s'éclater. Et on raconte une histoire ensemble. Et ça, franchement, il y a d'agréables surprises à venir.
Après, c'est vrai que c'est ce que Brand là, est en train de faire remarquer sur le chat. Il dit que d'une part, il a des retours de deuxième main qui disaient que le bouquin en lui-même était pas super convaincant, mais surtout que ça avait l'air fait pour faire du Scooby-Doo. Et c'est vrai que voilà, moi la partie que j'ai faite, c'est clairement c'était dans cet esprit-là.
De toute façon, c'est de la comédie. Le but du jeu, voilà. C'est comme ça, quand même comédie. C'est entre la télé-réalité et le machin, bah c'est voilà. Oui, bien c'est sûr.
Ça. Donc dans ce genre-là, oui, ça fonctionne tout à fait. Je sais pas à quel point ça pourrait marcher en campagne ou sur plusieurs scénarios. Je pense c'est le jeu qu'on sort pour faire une petite partie de temps en temps.
Voilà, ou une mini-campagne de, on va dire, de faire une évolution de la franchise en trois trucs, sachant qu'il y a des règles pour gérer les dettes et le chapitre 11 quand on part en banqueroute, parce que quand au niveau de votre banque, vous faites n'importe quoi, ça assez rigolo.
Ouais.
Mais moi, ce que je trouve, c'est que pour l'investissement, quand même, ouais, si, quand même, $20 quand même. Ouais, c'est quand même cher.
Donc, voilà.
Non, je révise mon propos. Je trouve ça un peu cher.
C'était
pour.
C'était tout pourri finalement.
Non, c'est pas pourri. Le jeu n'est pas pourri, mais je trouve ça un peu cher. À mon avis, vaut mieux acheter le PDF tout simplement. Il y a des illustrations qui sont correctes, il n'y a pas de problème, mais bon.
Oui, puis voilà, c'est un jeu de 80 pages, les règles sont quand même pas très compliquées, donc je pense qu'avec un PDF, tu t'y retrouves.
Exactement.
Tu t'imprimes l'étape dont tu as besoin.
Si vous êtes intéressé par le jeu et que vous voulez voir un peu les suppléments qui existent, vous cherchez le blog de Zed Lopez. Il a regroupé en fait.
On mettra le lien de toute façon.
Voilà. Il a regroupé en fait un petit peu tous les suppléments possibles et imaginables, y compris celui qui est cité, donc Nightwatch, il est cité dans le livre de base.
D'accord.
Mais il est introuvable sur le net, donc il est allé retrouver sur archive.org, webarchive.org, le lien pour aller récupérer le supplément en question.
L'archéologiste,
ah,
quoi.
Ah ouais, il rigole pas. Hein. Donc c'est un blog qui est assez pratique de ce point de vue-là. Donc voilà, Inspectors donc par Jared Sorensen, édité dans sa maison d'édition qui s'appelle Memento Mori, donc en version papier pour $20.
D'accord.
Voilà, j'ai fini.
Merci Michael. Du coup, il va falloir faire assez vite. Tu n'as que 15 minutes.
mais je n'ai jamais fait 15 minutes. C'est ma première
fois. Et oui,
fois.
Il va falloir prendre sur toi.
Oh bah,
Donc, on revient à maintenant à Callisto qui va nous présenter Rodvank City. Donc cette fois, il n'y a pas de mecha.
Non, il n'y a pas de mecha, mais alors bon. Tout comme Yannick avait mis un de ses projets en suspens parce que Night Black Agent ça remplissait à peu près son cahier des charges. Moi j'ai mis en suspens mes tentatives pour créer un jeu de vigilante depuis que j'ai lu Rodvank City. The City of Shadows.
Alors, est-ce que tu peux définir... Alors, c'est un machin de comics, ça, les vigilantes.
Les vigilantes, bah, c'est en gros l'individu lambda normal qui va à un moment donné revêtir un masque pour essayer d'aller faire d'appliquer un peu la justice qui n'est pas appliquée.
Un milicien, quoi, en gros.
Oui, mais voilà, donc sponsorisé par lui-même, généralement, et avec son code d'honneur à lui-même, solitaire, donc plus ou moins en désaccord avec la loi.
D'accord. Pas de super-pouvoir, donc...
Non, bah, ou pas énormément.
D'accord, très bien. Je préférais redéfinir le terme, parce que pour moi, il n'était pas très très clair.
D'accord, ok. En fait, ils vont... Bon, je vais en parler un peu, mais bon. Alors... c'est fait par Skullcrow Games dans la collection World of Pulp qui utilise un système générique propre, le Bare Bones Beyond, à ne pas confondre avec le Bare Bones Fantasy dont on entend parler ces temps-ci. Ça a été kickstarté il y a un an de justesse et j'en ai jamais entendu parler. Je suis tombé dessus par hasard. Le PDF a dû remonter à $12 maintenant. Voilà, il y a un soft cover, ça va être $20. Du coup, pour le coup, c'est beaucoup plus gros qu'Inspectors, puisque ça fait 300 pages, qui sont agencées de manière assez bordélique. C'est en noir et blanc, avec un peu d'illustration pour les PJ, c'est d'un niveau assez moyen. C'est sympa, hein, ça cadre à peu près, mais bon, y a pas, c'est pas vraiment ça qui peuple le bouquin. Par contre, on a énormément de listes tables aléatoires. Quand je dis listes tables aléatoires, c'est que c'est agencé sous forme de liste, mais en fait tu jettes un dé de 66 ou un truc comme ça, et hop, ça te sert à savoir quel habitant de la ville t'as rencontré, et ainsi de suite, quoi.
D'accord.
Donc on a des PNJ, des lieux, du matos, des abilities, des synopsis, il y en a quand même 151.
Ah oui, synopsis ?
Ouais.
Ah oui, pas mal.
Ouais, et puis c'est pas les trucs d'une ligne. Donc au niveau table et compagnie, on n'est pas sur la densité d'un nanochrome, mais c'est quand même assez touffu. Sur la totalité du livre, on peut dire qu'il y a 80 pages de règles, okay. 150 d'éléments liés à Rotwang City en elle-même, mm-hmm. Donc de l'histoire, mais pas beaucoup, hein. De la géographie, les héros, enfin les antagonistes, les protagonistes, des civils, comme je disais, 151 synopsis et un scénar d'intro. Okay. Et on a aussi, donc il reste encore 70 pages, je veux dire, qui vont être liées au pulp générique. En gros, c'est principalement des archétypes de PNJ. Okay. Donc tout ce qu'on peut imaginer de trouver dans du pulp, hein, donc des nazis, des dinosaures, des zombies, il y a vraiment, vraiment toute la palette.
Voir tout ça à la fois.
Ouais, je pourrais y revenir, ouais, éventuellement si j'ai le temps, mais c'est un peu le système technique permet un peu de comboter. Mmh. Donc en gros, mmh. Je prends mon gorille géant et je lui rajoute un pack de roquettes sur le dos, piqué sur le Rocketman, et donc bah voilà, j'ai des gorilles géants avec des roquettes. Enfin, ouais, propulsés par des roquettes.
Et des singes avec des ailes de chauve-souris.
Ça doit pas être très compliqué à faire. Ouais. Donc, l'impression d'agencement bordélique, ça vient sûrement de ce découpage, parce qu'en fait, à la fin des règles génériques, on a déjà un certain nombre d'appendices sur la magie, les codes de conduite héroïques, la conversion à d'autres systèmes. Puis on attaque le background de Rotwang, qui lui-même va ramener du technique quand on va aborder le sujet des archétypes. Ils sont un peu la base de la création des personnages, quoi. Donc, il y a une table des matières qui est un peu vitale pour s'y retrouver. Mais à première lecture, ça foisonne dans tous les sens. Moi, quand je l'ai lu, comme c'était plutôt bien, c'était plutôt « Oh ouais, chouette, il y a des nouveaux trucs !» Et c'est seulement après, quand on essaie d'avoir une vision d'ensemble, on dit « Ouais, mais attends, ça aurait peut-être pu être agencé d'une manière plus pratique. »
C'est bordélique comme Apocalypse World ?
Non, parce que c'est pas du tout dans le sens des redites, au contraire. C'est vraiment, au contraire, il n'y a pas de redites. C'est plutôt, je pense que ça a été un peu du style « Ah bah chouette, il reste encore de la place !» Ou alors « Oh, on a gagné un peu de sous, donc on peut rajouter une table de machin, et puis si on rajoutait encore un truc de dessus ?» Voilà, ça me donne un effet d'empilement, en fait. Bon, on va parler un petit peu du jeu en lui-même maintenant. Rotwang City, c'est une ville imaginaire de la côte marécageuse de la Géorgie. Sa vieille bourgeoisie, hein, on va appeler ça des fripons, ont pour origine de leur fortune la piraterie, avant qu'ils ne soient fait évincer par les industriels, et puis après sont venus les mafieux. On rajoute des politiques par là-dessus, et on précise qu'on joue au début des années 30, donc en plein cœur de la Grande Dépression.
D'accord.
Et on se retrouve avec... un monde rempli de corruption, de violence, de misère, qui frappe à la porte de beaucoup de gens. Donc on a une ambiance qui est qualifiée de pulp noir, où seuls les grands méchants suscités sont vraiment noirs et où tout le monde, par la force des choses, est plus ou moins gris, quoi. Okay. Y compris les héros du jeu, qui vont être des anti-héros, généralement solitaires, mais avec ce petit côté un peu code de conduite. Ça pourrait être ça me fait penser peut-être à Marv dans Sin City, par exemple, ou un Batman, mais bon, peut-être un peu Batman, un peu plus du pauvre quand même.
Oui,
d'accord,
oui.
Donc pas
sans les gadgets, en fait.
Donc pas Charles Bronson ou Alain Delon comme Brand le suggérait sur le chat.
Si, c'est possible aussi. Ça me fait aussi penser au la bande dessinée The Goon.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Rotwang City, c'est une ville imaginaire de la côte marécageuse de la Géorgie. Sa vieille bourgeoisie, les fripons, ont pour origine de leur fortune la piraterie, avant qu'ils ne soient évincés par des industriels et plus récemment par les mafieux. On rajoute des politiques là-dessus et on précise qu'on joue au début des années 30, en plein cœur de la dépression. On a donc, autant dire que la corruption, la violence et la misère, ça frappe à la porte d'à peu près tout le monde, quoi. On a une ambiance qui est du pulp noir, où seuls les grands méchants sont vraiment teintés de noir, et où tous les autres sont plutôt dans différentes teintes de gris, sans référence à un ouvrage quelconque. Et les héros solitaires, donc, comme je le disais au début, sont vraiment des anti-héros par excellence, dont la vie ou l'apparence pourrait être celle de Monsieur Tout-le-Monde. Ça peut très bien être un boucher qui un jour se dit « il faut que je fasse quelque chose car le stupre règne dans mon quartier », qui donc généralement vont à un moment donné se couvrir d'un masque pour aller lutter contre l'injustice. Ainsi, nos héros pourront côtoyer l'araignée noire, Victor Monstre, le scorpion, ça c'est donc des personnages qui existent déjà dans la ville. Et bien évidemment, les dinosaures zombies nazis géants ressuscités par la magie vaudou des marais en sous-main pour le compte du mystérieux maître du crime chinois que personne n'a jamais vu pour le dire.
Lui-même contrôlé par les Illuminati.
Ou l'extraterrestre à yeux d'insectes, qui fait partie de la liste. Mais
j'étais pas loin.
Non, mais il y a de tout. Il y a de la momie steak. Voilà, bon. Donc tout ça, on retrouve aussi tous ces éléments du côté pulp un peu plus aventureux, en dehors du cadre seulement de la ville corrompue, etc. Le système, donc le Bare Bones Beyond, ou Be Free, To be free. Voilà. Ça vient de la volonté des créateurs d'avoir un corpus de règles simples et permissives qui autorisent les joueurs à façonner leur personnage tel qu'ils l'envisagent par un système de traits freeform. Ce qui est devenu un peu un classique quand même. Et surtout qui permet de dire facilement aux joueurs oui, c'est bon, tu peux tenter ce truc là. Voilà, s'expliquer comment. Un personnage est d'abord basé sur un archétype pulp, donc la femme fatale, le seigneur de la jungle, le reporter intrépide, un aristocrate mystique. Bah si, rappelez-vous dans Mystery Men, c'était quoi le Blue Fakir?
Ah oui.
Voilà.
Tout à fait.
Bah ça c'est un petit peu le côté.
Shadrach le magicien. J'aimais bien Shadrach le magicien.
Non, Mandrake.
Mandrake.
Non, le Shadrach c'est dans la chronique de la lune noire, oui, et c'est la grosse bête noire. Mais il est peut-être magicien aussi, mais.
Oui, Shadrach, Meshach, Abednego, mais ça c'est.
Donc cet archétype, ça lui donne une dizaine de traits emblématiques à ce personnage, des abilities d'une part qui vont l'aider et des conditions qui vont le contraindre. Donc par exemple la femme fatale, elle va commencer avec les conditions froides et détachées, avec une condition manipulatrice, avec mystérieuse, et elle aura des abilities qui seront le charme, le mensonge, détecter les points faibles, etc. Le joueur complète cette base chiffrée d'autres traits de son choix, ou il augmente simplement les valeurs en fait de ceux qu'on lui a déjà donné, hein. Faut quand même essayer de faire un petit peu des petites variations. De manière assez surprenante, puisqu'on nous dit « Bonjour, vous êtes dans un jeu freeform », il y a une grosse liste d'abilities, et il y a une pléthore de conditions qui sont proposées sous la forme de codes de conduite des héros ou des vilains. Mais en fait, la réflexion, à mon sens, ça donne une base solide pour pas sombrer dans le freeform complet et s'apercevoir qu'on a oublié des briques élémentaires indispensables dans plein de jeux. Genre « Ah ben, j'ai rien pour faire de la perception ou de la volonté, ou ci ou ça ». Puis ça permet de s'entendre aussi sur ce qu'on peut faire avec un certain nombre d'abilities, quoi. Sans qu'on ait besoin de faire appel à la vision du joueur, parce que très souvent, quand on va avoir des traits vraiment créés par le joueur, c'est sa vision qui détermine comment ça fonctionne. Bien sûr, avec le veto du joueur, du MJ, mais on est censé essayer de respecter son choix et savoir comment son canon à proton fonctionne, etc. Et dire « Si, là, ça pourrait marcher dans cette situation. Ah, ok, d'accord. C'est ta raison, c'est ton canon à proton. C'est toi qui sais. » Les traits vont de 1 à 10, là je rentre dans le technique. Hein. Toute action non exotique a par défaut un rang de 4. Donc, y compris des choses basées sur la chance comme couper le bon fil sur une bombe. Tout ce que n'importe qui pourrait faire.
D'accord.
À peu près, voilà, une chance, c'est un niveau basique de 4. Cette échelle de 1 à 10, on peut tout noter dessus. Par exemple, un élément de décor qu'on voudrait utiliser, son poids, sa résistance, etc. Ça me rappelle un peu les vieilles tables de correspondance dans les DC Heroes, ouais. Et dans plein d'autres jeux. Pour tester un trait, on jette 2 dés de 6 et on cherche à obtenir un résultat supérieur à 12 moins la valeur du trait. Donc, avec ma valeur de base de 4, je vais chercher à obtenir un résultat supérieur à 8. Ok ? Jusqu'ici, tout va bien. Et si on obtient des multiples de ce chiffre, en fait, ça représente des succès supplémentaires. Donc, mettons que j'ai un trait à 7, bon, baston, hein, pour faire simple, ça me donne une difficulté de 12 moins 7, 5. Donc, si je fais moins un 5, j'ai un succès. Si je fais un 10, j'ai 2 succès. Si je fais un 15, j'ai 3 succès. Bon, alors, le 15 avec 2 dés de 6, vous allez me dire, c'est pas évident, mais en fait, tous les doubles sont explosifs. Sauf le double 1 qui perd toujours, et le double 6, c'est un peu réussite automatique, et c'est ce qu'on appelle aussi un boxcars, en fait. Donc, ça va me donner un petit bonus. En gros, à chaque fois que je fais un double 6, j'engrange un plus 1 que je vais pouvoir utiliser après dans le jeu, quand je le souhaiterais. Alors, astuce supplémentaire, en fait, on va pouvoir empiler les traits sur un trait de fondation. Donc, si je suis au corps à corps, de base, je vais faire un premier jet de combat, et si je le réussis, je vais pouvoir tenter un second jet, par exemple, avec mon trait gros biceps. Et si j'ai des succès sur ce second jet, bah, éventuellement, je peux aussi continuer à empiler un troisième trait, etc. Donc je cumule les succès de mes différents traits jusqu'au moment où bah, j'ai un échec, voilà, je suis obligé d'arrêter. Mais je pourrais pas réutiliser mes traits avant la prochaine action. Donc mes gros biceps que j'ai utilisés pour toucher quelqu'un, je vais pas les utiliser pour faire mon jet de dégâts, par exemple.
D'accord.
Certains traits vont s'exprimer sous la forme de bonus fixe au dé, ce qui va être le cas notamment des armes, genre une matraque plus 4. Bon bah voilà, ça, je prends mon jet de combat de base, je vais prendre mon jet de dégâts de base et je vais rajouter un bonus lié à ma matraque. Pour le combat, on en est dans du classique. initiative, jet d'attaque contre jet de défense et jet de dégâts contre jet d'encaisse. Et en fin de tour, on fait un petit jet de récupération pour tout ce qui va être des dégâts non létaux. Donc le... Ouais.
Alors, Volsung demande sur le chat s'il n'y a pas un risque de faire trop de jets pour une seule action, si on relance à chaque fois qu'un trait est pertinent pour une action donnée. Il dit, c'est usant, ça peut casser le rythme de la fiction.
Ouais, mais je pense que t'as pas énormément de traits. J'en imagine difficilement qu'on ait plus de 3 traits achetés sur un seul jet. On part sur un jet de 2D de 6, même s'il y a les explosifs. On n'est pas sur des grosses quantités. Je ne l'ai pas testé, mais je souhaite le tester, mais c'est pas encore testé. Alors, pour l'initiative, un petit truc que j'apprécie. L'initiative, elle se joue entre un seul joueur et le MJ. Le plus fort agit, classique. Puis c'est au tour du voisin. Et on fait tout le tour à la table. Et au tour suivant, en fait, on va décaler d'un joueur. Donc, admettons, Michael est au premier tour, c'est lui contre moi, MJ. Au tour suivant, ce sera David contre moi, MJ. Donc, chacun a la possibilité, à un moment donné, d'être le premier à agir, etc. Et du coup, on se perd pas en 50 000 jets d'initiative. Tous les personnages ont en fait 4 points de vie. Chaque attaque qui touche va de base faire 1 point de dégâts. Et chaque succès de dégâts qui dépasse les succès d'encaisse en rajoute 1. Donc, armée, armure, bah, ça va modifier de manière fixe le résultat de ses jets. Et en fin de tour, donc, on reprend son souffle si on a pris des dégâts contondants, enfin des non-létaux. Et les succès de récupération en fait, réduisent d'autant les dégâts subis pendant le tour. Donc, j'ai pris un gros coup ce tour-ci, mais j'ai quand même à la fin du tour, en faisant preuve de volonté, de résistance, de n'importe quoi, de détermination, je peux continuer le combat, quoi. Tant qu'on est dans le côté bagarre, coup de poing, et ainsi de suite. Pour l'expérience, en fait, les personnages vont avoir le droit à des entraînements à raison d'un par scène joué. Donc on joue une scène, pouf, j'engrange un entraînement que je pourrais utiliser à la fin du jeu. Un entraînement peut être dépensé pour essayer de faire progresser une capacité ou pour diminuer une condition, pour qu'elle m'affecte moins. Je suis pas rentré dans l'état d'une condition, mais une condition, en fait, va pas aider, mais va contraindre. C'est-à-dire que si je suis manipulatrice et que je suis dans une situation où on me dit « Oui, mais là, tu pourrais, plutôt que d'être généreuse, tu devrais peut-être plutôt essayer de profiter de la situation. » Pouf, on teste, et si je réussis mon jet de manipulation, et bah, de manipulatrice, c'est fatalement que je dois l'être. Je dois changer l'interprétation
D'accord.
de mon personnage.
Okay.
Donc, comme je disais, ça contraint un petit peu. On peut même envisager un test où les deux vont se cumuler. J'essaie de faire quelque chose d'altruiste et d'aider quelqu'un avec une partie de mes traits, mais parallèlement on va dire mais attends, t'es une salope manipulatrice. Merci, je sais. Et donc du coup, là en fait je vais tester ma condition, mais les succès que je vais gagner sur mon jet de condition vont venir se soustraire de réussite sur mon jet, je ne sais pas moi, de diplomatie fortement altruiste.
D'accord, ok. Voilà.
Ouais, comme je disais, tout simple, donc un entraînement je vais essayer de le dépenser. Par exemple, si j'ai 7 en combat, bah tout bêtement j'utilise un entraînement pour jeter 2 dés à 6 faces, et si je dépasse mon score de 7, et bah j'ai augmenté d'un point mon score de combat. Voilà. Il n'y a pas d'intérêt particulier à ce que je m'étende sur les protagonistes et les antagonistes qui sont présentés, même s'ils représentent une grosse partie du bouquin. Ils sont bien détaillés, c'est-à-dire que chaque personnage a au moins 2 pages avec seulement quelques lignes de technique. J'ai bien aimé le fait que pour chacun on ait le point de vue d'un unique PNJ, le détective Tuff Whaley, qui ça donne une unité en fait de point de vue. Il donne à chaque fois cet homme masqué, j'ai déjà eu l'occasion de travailler avec lui et ça s'est bien passé, etc. Mais je me demande quand même qui se cache derrière, etc. etc.
D'accord.
Donc, et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que même si les personnages sont liés, j'ai eu vraiment l'impression que si un tel bonhomme qui me plaisait pas, je voulais l'enlever, ça briserait en rien le setting. Les personnages sont liés, mais ils sont pas imbriqués les uns dans les autres. Donc on peut enlever une carte du château sans que tout se casse la gueule. Le scénar, bah, je l'ai pas lu parce que il commence par le seul moyen classique de commencer sans savoir qui sont les joueurs et quels vont être les personnages. Ouais. Un contact qui donne un rendez-vous pour filer une mission. Et en fait, c'est l'antithèse de ce qu'on va décrire dans le reste du bouquin avec le coup du héros solitaire, etc. Ouais. Quoi. Ouais. Attendez, comment tu fais pour si n'importe qui peut réunir les 4 héros masqués d'une ville que personne ne connaît.
Vous êtes dans un bar, un speakeasy, quand soudain un vieil homme s'approche de votre.
Vous êtes dans un bar pour super héros.
Ouais, vous êtes dans sur le toit d'un immeuble avec un bat signal, un fox signal, un corbeau signal. C'est marrant qu'ils ont réuni ça. Bon.
Ils ont loué un local ensemble pour diminuer les coûts.
Mais ça, c'est le genre de choses auxquelles moi-même je m'étais heurté quand j'avais une réflexion sur ce type de jeu que j'appréciais, quoi, cette ambiance. Ouais. Comment arriver à. Bon, au moins ça me rassure, je suis pas le seul à buter dessus. Mon avis sur ce jeu de manière générale, c'est que je vais le tester tel quel, ou pour faire du, comme j'ai évoqué tout à l'heure, The
scénario
Good.
D'intro compris.
Non. Non, après j'ai survolé, ça avait l'air bien, mais bon, c'est voilà, l'intro était déjà c'était un deal breaker quoi pour moi.
C'était plus pratique. Alors les quatre petites copines, les petites copines de chacun des quatre héros sont fait kidnapper. Elles sont dans un métro qui est, il y a une alerte à la bombe, ouais, elles sont bloquées. Ouais. Bref, il faut qu'ils y aillent tous quoi.
Il y a même plus simple, hein. En fait. C'est pas quatre petites copines, c'est la même
qui sont même. Exactement, c'est là, oui, bien sûr.
Il y avait plus simple.
Oui, oui, tu as raison, parfaitement. Donc tu vas le tester
ouais,
tel quel.
Ouais. Ou comme je disais, pour, certainement, ce que je m'étais demandé à mon nez, comment est-ce que je pourrais faire jouer du The Goon, BD que j'adore. Je pense que c'est un bon produit parce qu'il suffit à lui-même pour longtemps, il y a vraiment pas mal de contenu. Il y a aussi pas mal de bonnes petites choses utiles, ses tables, ses codes, des tréfiformes avec du filet, et certains dont je n'ai pas parlé, par exemple, comme les Brins. Qui sont liés au concept de pulp noir, et c'est une sorte de licence artistique en fait, mais qui est issue de la censure, et c'est tiré du nom d'un réalisateur de l'époque, hein, enfin de ce genre de film là, de film noir, où en gros c'est un peu l'art de dire comment enlever de la phrase le mot cadavre et sang et faire dans la suggestion plus que dans le montrer quoi. Et du coup, c'est vrai que quand on commence simplement à approcher les scènes comme ça, bah je trouve que ça donne un petit cachet, une petite ambiance. Il y a aussi l'œil cosmique. Le cosmique, c'est une version plus élaborée en fait du dé à la FURPG, ça veut dire avec les Wiimei et compagnie, etc.
Ouais.
Mmh. Bon, c'est un peu plus développé avec du positif, du négatif, des choses qui peuvent se combiner, des idées de table derrière. Mais ça peut être un bon outil d'improvisation, mais clairement ils le disent, voilà, vous le sortez pas à chaque fois qu'on vous pose une question, sinon on n'en sort pas quoi. Voilà dans les grandes lignes. Et puis, s'il y en a qui préfèrent être plutôt 10 ou 20 ans plus tard, avec des personnages plutôt super-héros Golden Age, eh ben, il suffit de vous tourner vers Davy Beauchamp Amazing Pulp Adventure.
Oh la vache!
Et oui! Non, c'est osé, je trouve, comme nom. Donc, Davy Beauchamp Amazing Pulp Adventures, qui reprend texto les mêmes principes que Rotwang, et donc les mêmes règles, hein, vraiment très peu de choses près, sauf que. Comme dit, ça se passe un peu plus tard, dans une autre ville qui fait un peu ville futuriste, etc. Et où là, on va avoir à peu près le même genre d'archétype, mais on est poussé un cran plus loin avec le potentiel un peu super-héros qui va se développer, etc. Quoi. Mmh. Et donc on augmente la catégorie des choses qu'on va affronter. Voilà.
Alors, dernière petite question de la part de Kramal. Tu parlais tout à l'heure donc du scénario qui, tu disais, qui fait l'inverse de ce que le jeu conseille. Mais justement, est-ce qu'il y a des conseils pour comment regrouper des héros solitaires?
Pas que j'ai vu, justement, c'est en
vu
sens.
Vu qu'eux-mêmes
ne les ont pas trouvés.
D'accord.
Non, mais voilà.
Ils présentent un scénario qui n'est pas canonique par rapport à leur univers.
et ça, c'est... C'est quelque chose qui, je pense, est vraiment un point difficile où on va retomber aussi après sur ouais, mais on fait comment est-ce qu'on va gérer une enquête, etc. Bon, maintenant on le sait, on met trois indices. Ça me paraît évident.
Bah oui, voilà.
Déjà, voilà. Ça va nous aider. Voilà.
Très bien. On se retrouve tout de suite.